nobis datus, nobis natus, ex integra virgine, et in mundo conversatus verbo sparsis semine, suis moras incolatus, muro clausit ordine. Il nous a été donné par le Père éternel, et il nous est né de la très sainte Vierge Marie. Et pendant qu'il est resté parmi nous d'une façon visible dans le monde, il a répandu la semence de la parole de Dieu. Et tandis qu'il allait clore sa présence visible parmi nous, il a fait une institution plus admirable encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons contemplé tous ces derniers dimanches les apôtres, et c'est encore les apôtres que je désire vous faire contempler aujourd'hui. Nous les avons contemplés endoloris, attristés par la nouvelle du départ de notre Seigneur. Nous les avons vus atterrés, stupéfaits, par l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les avons vus déchirés et abattus par sa passion et par sa mort en croix. Nous les avons vus complètement découragés et ne savons plus que penser jusqu'au moment de sa résurrection, où ils se sont alors trouvés consolés. Nous les avons vus encore réconfortés pendant 40 jours, par toutes les apparitions régulières de notre Seigneur. Et enfin, nous les avons vus transportés de joie et d'allégresse au moment de l'ascension de notre Sauveur. Nous avons contemplé notre Seigneur Jésus-Christ montant au plus haut des cieux. Nous l'avons vu passer au-delà des hiérarchies les plus élevées du ciel, pour monter jusqu'au trône de Dieu, s'asseoir sur le trône même de Dieu à la droite du Père, et nous l'avons vu recevoir l'adoration de tous les saints anges. Enfin, nous avons vu les apôtres fortifiés et illuminés d'une façon remarquable par la descente du Saint-Esprit. Notre Seigneur leur avait dit en effet, « Non relinquam vos orphanos, je ne vous laisserai point orphelin, mais je vous enverrai un autre paraclet, un autre avocat, le Saint-Esprit, qui lui vous éclairera de toutes choses. » Nous avons vu aussi comment notre Seigneur ne les a pas laissés orphelins, puisqu'il devait demeurer parmi eux en sa divinité d'une façon toute spirituelle. Il leur avait promis en leur disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Tous les jours. Donc avec vous, apôtres, et avec vos successeurs, et avec tous ceux qui croiront en mon nom. Je serai avec eux tous les jours, d'une manière spirituelle. Mais il leur avait dit aussi, je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous, je reviendrai à vous. Et effectivement, notre Seigneur est revenu d'une façon toute spéciale, et non seulement il est revenu d'une façon toute spéciale vers les apôtres, mais Dieu en soit béni, il est revenu d'une façon toute spéciale, encore jusqu'à aujourd'hui, chez nous, devant nous, dans le Saint Tabernacle. Il est là présent, d'une façon toute mystérieuse, dans la petite hostie, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est là, certes, un des mystères les plus grands de notre foi, celui qui appelle le plus de confiance en la parole de Dieu, mais il faut le dire aussi, un de ceux pour lesquels il y a eu aussi un très grand nombre de miracles dans l'histoire de l'Église. Alors on pourrait être tenté nous aussi de dire comme le bon Joinville, qui était le compagnon du grand roi Saint-Louis et qui était en admiration devant toutes les vertus de ce saint roi qui imitait si bien notre Seigneur. Lui qui, presque tous les jours, lavait les pieds à 12 pauvres et voulait les servir à table comme un serviteur, lui le roi, du plus grand royaume de l'époque. Lui qui a voulu verser son sang dans la croisade pour protéger les chrétiens que les Arabes empêchaient d'aller au tombeau du Christ ou massacrer, qui a accepté l'emprisonnement, ce grand roi, eh bien, Joinville dit, quand il raconte sa vie, avec candeur et simplicité, il parle de l'amour de Saint-Louis pour le très saint sacrement, un amour ardent. Et il dit, je l'avoue simplement, ce mystère me dépasse et j'ai du mal à le comprendre et même humainement à l'admettre. Je le crois, je l'admets, mais véritablement il me dépasse. Et c'est sûr que comme tous les mystères, ce mystère-là particulièrement nous dépasse. D'abord, il dépasse notre façon de voir. Si nous étions tout-puissants, est-ce que nous nous mettrions dans un tel état d'humiliation? Est-ce que nous nous serions fait si petits, si humbles, à nous livrer entre les mains, des fois des mains d'impies? Et puis, comment est-ce possible que celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir soit là tout entier sous chacune des parcelles de la Sainte Hostie? C'est là un grand mystère. Alors certes, il y a beaucoup d'autres mystères qui nous aident un petit peu à le comprendre. Saint Paul nous dit que quand le Verbe de Dieu s'est incarné, il s'est comme anéanti en la très sainte Vierge Marie. Il s'est fait tout petit en elle, et le jour de Noël, dans la crèche, nous le contemplons tout petit bébé. Et là aussi, il s'est laissé à la merci de ceux qui l'entouraient. La très sainte Vierge Marie pouvait l'emmailloter de l'ange, il ne pouvait plus bouger. Elle pouvait le prendre, le mettre à droite pour préparer une couche, elle le remettre à gauche. Saint Joseph pouvait le prendre, pouvait le placer de telle et telle manière, il se laissait faire. De la même façon qu'il se laisse faire par les prêtres et par ceux qui ont le pouvoir de toucher le corps de notre Seigneur lui-même. Et quelquefois, ce ne sont pas des saints qui le font. Il s'est même laissé, dans la Sainte Hostie, livré à des impies. Il y a eu des sacrilèges abominables. Et alors on peut se demander, mais comment Dieu peut-il permettre une chose pareille? Eh bien, il suffit de contempler sa passion pour le comprendre. Il s'est laissé prendre lui-même en chair et en os. Il s'est laissé flageller, immoler. Et voyez, il a permis aussi de grands miracles. Plusieurs fois, des impies, vous savez par exemple que les protestants avaient une haine farouche contre la Sainte Hostie, et il est arrivé que, avec un stylet ou un glaive, on perce une hostie. Eh bien, le bon Dieu a permis plus d'une fois que du sang coule de l'hostie. Il y a eu beaucoup de miracles éclatants. Il y en a un qui est très célèbre. On a annoncé tout à l'heure la fête de Saint-Antoine de Padoue. Eh bien, il y a un miracle très célèbre. C'était un juif qui se moquait des chrétiens parce qu'il croyait que le Dieu Tout-Puissant pouvait être dans l'hostie. Et il avait dit par mode de plaisanterie et de moquerie, « Eh bien, si mon âme l'adore, j'y croirai. » Mais il avait affaire à un saint franciscain, saint Antoine, que le bon Dieu écoutait parce que lui était tout à Dieu. Et saint Antoine a pris ce défi au mot. Il a dit, « Vous allez vous placer avec votre âme à tel endroit. » Et il a été prendre le Saint-Sacrement et il est passé en procession entouré d'éclairs. Et quand l'âne a vu passer le Saint-Sacrement, eh bien il a plié les genoux. Et le juif en a été comme fou sur le moment et il s'est converti. Et il y a eu bien d'autres miracles, notamment celui de l'hostie qui est conservée à Lanciano en Italie. Elle est conservée depuis le XIIe siècle intacte. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'une matière comme celle-ci reste depuis le XIIe siècle? Ça fait 8 siècles que c'est inscrit dans des livres qu'il y a des pèlerinages pour aller honorer cette hostie, et qui est depuis 8 siècles intacte, ou plus exactement, depuis 8 siècles, elle est sous l'aspect singulier. Un prêtre, pendant la Sainte Messe, a eu des doutes en disant, mais comment est-ce possible? Il avait des doutes. Et alors Dieu a permis qu'il prononce quand même, avec l'intention de faire ce que veut l'Église, les paroles de la consécration. Et alors l'hostie s'est changée en chair. Et elle ne s'est pas changée seulement en n'importe quelle chair, mais en la chair du myocarde, c'est-à-dire la chair du cœur. Où on voit bien, notre Seigneur a bien voulu manifester que la Sainte Hostie, c'était vraiment le don de son cœur. Et cette hostie, on en voit encore des photos. Si vous le voulez, je pourrais vous montrer un livre où on en a pris quantité de photos. Elle est conservée, elle est dans un ostensoir, et à certains moments de l'année, elle est régulièrement montrée. Et les pèlerins peuvent aller la voir, cela depuis 8 siècles. Et il n'y a pas besoin d'aller en Italie, il y en a eu aussi en France, dans une église où le feu avait pris. Vous savez que avant les autels étaient surélevés, au moins minimum de 3 marches, mais souvent c'était 6 ou 9. Et même 12 marches. L'autel, c'était vraiment le mont Calvaire. Le prêtre était en haut. C'était aussi le mont Tabor. Eh bien, voilà que le sanctuaire avait pris feu. Et le bon Dieu a permis que tout brûle, même l'autel, sauf justement le tabernacle et les hosties, et ils sont restés suspendus en l'air parce que tout le reste du support était brûlé. Et pendant plusieurs heures, et même des jours entiers, des gens de toute la région sont venus pour constater la chose, parce que vous pensez bien qu'un fait pareil, c'est pas resté inaperçu. Tout de suite, on est allé courir partout et on ne savait pas comment faire. Le tabernacle était resté suspendu en l'air dans l'église, et tout le monde, tous ces gens-là l'ont vu. Il y a eu des quantités de gens de toutes les conditions qui ont mis des témoignages par écrit. Et c'est seulement au moment où on a remonté un autel, et que pendant la messe, un prêtre avait mis un grand propitiatoire sur l'autel, et le tabernacle est redescendu, et il a pu récupérer les hosties intactes. Et combien il y en a eu des miracles eucharistiques. Et s'il y a eu des miracles eucharistiques, il y a eu aussi des martyrs de l'Eucharistie. Et combien de saints sont morts pour affirmer la foi à la Sainte Eucharistie, notamment au moment du protestantisme, où par haine du Saint-Sacrement, eh bien, les protestants dans des villes ont massacré tous les habitants catholiques, dans la mesure où ils ne voulaient pas nier ce dogme, et les ont massacrés. Ce sont aussi des faits historiques qu'on a oubliés. Par exemple, si à Tours, deux des plus grands saints ont vu amputer leur tombeau, eh bien c'est parce que les protestants sont venus et ils ont mis le feu aux reliques. Ils ont tout détruit. Eh bien, dans toute la France, dans toute l'Allemagne, ils ont eu un acharnement terrible contre Jésus hostie. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de martyrs. Il y a eu déjà au 1er siècle le petit Tarcissus, qui était un lecteur de l'Église. Et c'était des moments spéciaux où il y avait peu de prêtres, peu de diacres, qui étaient aussi obligés de se cacher, et l'Église donnait des permissions vraiment spéciales par ses évêques, et ce petit lecteur avait l'autorisation de porter le Saint-Sacrement à un malade. Et des païens sont venus le tenter, et il a tenu si fort le Saint-Sacrement sur son cœur, ils n'ont pas pu, pourtant c'était un enfant, une quinzaine d'années je crois, ils n'ont pas pu lui défaire les mains. Alors ils l'ont frappé en lui disant, si tu ne veux pas lâcher, nous allons te tuer. Eh bien il s'est laissé tuer sur place, et le bon Dieu a permis comme miracle qu'il n'arrive pas, même après sa mort, à lui détacher les mains de la poitrine. Et c'est seulement quand les chrétiens sont venus qu'ils ont pu lui défaire facilement les bras et récupérer les saintes espèces, le jeune Tarcissus. Mais il y en a eu aussi, donc au moment du protestantisme, et il y a eu beaucoup de martyrs de la Sainte Eucharistie. Quel don ineffable que celui-là! Pourquoi croyez-vous que des villes entières se sont mises à faire des cathédrales? Si c'était seulement pour un mémorial de la Passion, à quoi bon faire des cathédrales? Si tous ces peuples n'avaient pas eu une foi profonde que sous cette petite hostie, c'était le Dieu Tout-Puissant qui était là, alors elle n'aurait pas donné le meilleur d'elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une cathédrale? Est-ce que vous comprenez le nombre d'heures de travail qu'il a fallu passer à ça? Est-ce que vous comprenez le nombre de dons qu'il a fallu? Prenez rien que le décor, par exemple, d'un hôtel qui est quelquefois entièrement doré, ou même une statue entièrement dorée. Et qui est-ce qu'il a donné l'or? Ce sont des milliers et des milliers de gens qui ont fait des dons pour que ça soit fait. Et les architectes qui ont travaillé pendant des dizaines d'années pour le faire, et ceux qui ont taillé les pierres, et ceux qui ont taillé... Et il fallait qu'ils vivent, que leur famille vive. Il fallait que toute la société soit solidaire pour pouvoir faire une chose pareille. Vous vous rendez compte, si on voulait, même avec la technique moderne qu'on a, avec les grandes crues, etc., si on voulait faire simplement de demander, de faire une souscription pour faire le prix d'une cathédrale. Oh, vous n'y pensez pas. Ça coûterait mille fois trop cher. On peut pas faire des choses pareilles. Pourquoi on n'a pas retrouvé les coloris des vitraux? Des vitraux des cathédrales, évidemment, qui sont tout à fait spéciaux. On a dit, oh, on n'arrive pas à imiter des coloris pareils. Parce que quelquefois, on a pris de l'émeraude, on a pris des pierres précieuses que les gens ont données de tout leur cœur pour le fondre et en faire ses couleurs. Et voilà pourquoi ces couleurs sont si belles. Ce sont des pierres précieuses fondues. Alors pourquoi on n'a pas retrouvé le secret des cathédrales? Parce qu'on n'a même pas l'idée que des gens aient pu se dépouiller de tout ce qu'ils avaient de plus précieux pour le donner au bon Dieu. Et est-ce que vous croyez qu'il l'aurait fait si ça n'avait pas été pour honorer la Sainte Hostie? Regardez comment dans une église, tout est centré sur l'autel, tout est centré sur le tabernacle. Ce qui nous montre justement que ceux qui sont de la nouvelle religion, ce n'est plus la même religion. Pourquoi ils vont mettre ce qu'ils appellent le Saint-Sacrement et qui en fait ne l'est pas parce que leur rite est invalide, dans une niche sur le côté, et on va mettre une Bible ou un missel à la place? Pourquoi les prêtres refusent de faire la génuflexion maintenant devant la Sainte Hostie, avant et après la consécration, ou avant la communion? Pourquoi les gens ne viennent plus à genoux? Pourquoi on le donne dans la main? Parce qu'on ne croit plus à Jésus Hostie. On ne croit plus que c'est le Verbe de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Saint-Louis? Pourquoi Saint-Ferdinand d'Aragon? Pourquoi tous ces rois, tous ces princes? Le grand empereur Charlemagne, le grand empereur Théodose le Grand sont venus humblement se mettre à genoux devant l'hostie. S'ils avaient cru que c'était qu'un morceau de pain, mais ils auraient été fous de faire une chose pareille. Voilà l'exemple de nos ancêtres. Voilà tous les temples qui érigent partout dans notre pays de France. Il n'y a pas un petit village qui ne soit formé autour du clocher de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chez nos ancêtres, la religion, la foi et l'honneur de Jésus Hostie, c'était le cœur de leur vie. Alors ils voulaient l'avoir au cœur de leur village, de façon à être tous assez près de l'église pour pouvoir y aller. Et on voit dans la vie de Sainte-Jeanne d'Arc qu'elle avait le privilège d'habiter tout près de l'église, et de la fenêtre de sa chambre, elle entrevoyait par les vitraux la lampe rouge du Saint-Sacrement. Oh, qu'elle passait des heures délicieuses là, à regarder le Verbe de Dieu qui était là présent pour nous, prisonnier des heures et des heures entières sans que personne vienne le visiter, pour se mettre à notre disposition quand nous voulons bien venir. Quel amour prodigieux que celui-là! Eh bien, demandons à Notre-Dame, demandons à ses martyrs, demandons aux saints apôtres qui ont une telle foi et une telle dévotion envers Jésus hostie, de renouveler en nous cette foi. Et cette foi, si elle est profonde, elle ne pourra qu'entraîner notre amour envers notre Seigneur. Pourquoi il y a si peu de charité et d'amour de Dieu? Parce que les gens ont perdu la foi. Pourquoi ils ne sont plus capables de supporter les mortifications? Pourquoi ils ne sont plus capables de se priver de tous les plaisirs défendus? Parce qu'ils n'aiment plus. Pourquoi n'aiment-ils plus? Parce qu'ils ne croient plus. Voilà pourquoi. Demandons donc à tous ces confesseurs de nous redonner cette foi en Jésus hostie. Et un dernier témoignage par lequel je voudrais terminer. Est-ce que vous voyez encore dans les villes des processions de la fête Dieu? Est-ce que vous vous rappelez un peu de votre enfance? Où on voyait passer les chantres d'abord de l'église, puis les enfants de Marie qui jetaient des pétales, tous les petits enfants qui jetaient des pétales devant Jésus hostie. On avait pris toutes les fleurs, tout ce qu'on avait de plus beau, les pétales et tout ça, et on les avait gardés. On faisait des reposoirs magnifiques avec des parterres extraordinaires, des décors. Et il y avait là le maire, il y avait là tous les échevins de la ville, toutes les autorités qui venaient, qui marchaient devant le Saint-Sacrement, qui pliaient le genou. Partout où ils passaient, on pliait le genou, on chantait. Et c'était toute la ville qui était là en procession. Et que dire des congrès eucharistiques, où il y avait des gens du monde entier qui venaient pour ces grands congrès eucharistiques. Eh bien, que cette foi de nos ancêtres ranime la nôtre, et surtout qu'elle nous fasse comprendre que pour nous donner un don si précieux, il faut que Dieu nous aime. Quand on se donne à quelqu'un au point de lui laisser presque l'usage de notre corps, c'est qu'on s'abandonne complètement à lui. C'est un signe d'une affection très grande, d'un grand amour, et bien c'est ce que fait notre Seigneur. C'est vraiment le don extraordinaire de son cœur. Dans les autres sacrements, il nous donne sa grâce. Une partie de sa vie divine. Mais dans ce sacrement-là, il se donne lui-même. C'est lui-même tout entier qui est là, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est pourquoi on l'appelle vraiment le très saint sacrement. Eh bien, demandons ce mois qui succède au mois de Marie, ce mois du Sacré-Cœur, à Notre-Dame, de nous faire comprendre à travers la méditation de ce que c'est que la Sainte Hostie, c'est-à-dire Dieu vraiment fait tout petit pour nous, pour notre bien, de nous faire comprendre les richesses inépuisables de l'amour du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.